Oh My God, l'émission décomplexée sur les séries, présentée par Eric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.
Bonjour et bienvenue dans Oh My God, épisode 4. Ici, on va continuer à assumer nos choix, qu'ils soient ou pas dans la tendance. Et on n'oublie pas que les séries, c'est avant tout une histoire de kiff. Alors après un épisode 3 qui a été particulièrement agité en débat, on a un peu réaligné nos chakras, on vous réserve une émission qui va plutôt être dans la bienveillance. Non. On va essayer ça. Oh, on va essayer ça. Moi, je pense qu'on peut tenter de la bonne humeur avec l'équipe qui est de retour au grand complet. Bonjour les amis.
Bonjour.
Elle a le même...
Bonjour.
Elle a le même engagement, mais pas le même timing que tout le monde, pour parler d'un chef-d'œuvre télévisuel ou d'une télé-réalité d'entrée de gamme. C'est la passion incarnée, elle n'est pas autour de la table pour ceux qui ont l'image. Elle doit être en envoyée spéciale à Hollywood, enfin elle va nous dire, je ne sais pas. Virginie de Clausade est avec nous.
En envoyée spéciale à Knokle-Zout. Non, malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais vous me manquez. Je suis heureuse de pouvoir être avec vous par téléphone. Et je vais quand même assumer mes passions.
On n'en doute pas. Elle sait défendre ses coups de cœur seule contre tous. Elle nous l'a bien montré la dernière fois. Elle ne lâche rien. Émilie Lopez est évidemment là.
Bonjour.
Salut Émilie. Tu vas te battre encore ?
Oui, je vais me battre encore et je suis un peu triste, il n'y a pas ma copine en face de moi.
Ouais, merde. Je fais ce que je peux.
C'est la force tranquille qui sait mieux que personne imposer le silence. Qu'il parle de Formule 1 ou d'obscur agent immobilier bimbo, c'est Céline Niederhofer.
Bien le bonjour. Elles sont pas si obscures, elles étaient rayonnantes, ces agents immobilières bimbo. Il faut vraiment regarder Selling Sunset et j'en reparlerai pas aujourd'hui.
Pas obscur, mais très bimbo quand même. Il a la fibre du journaliste en lui lorsqu'il documente ses interventions à la référence près, même pour parler de soap opéra, c'est Fabrice Dupreuil.
Et bonjour, et justement les soap opéra, je fais mon propre teasing, je vais vous en reparler tout à l'heure.
Ah, ça y est, c'est reparti dans l'auto-teasing. Bon, vous avez vu comment je dis des trucs sympas sur vous quand même ?
Ouais. Merci beaucoup. Alors, comment tu veux qu'on te présente ? Ouais. Et nous vous présentons Eric Maillard, c'est l'animateur de la bande, c'est...
La bienveillance.
La bienveillance et la...
Et la petite queue.
La sérénité et la petite queue.
Alors, on est... Saint patron de toutes nos âmes cassées, les amis. Soyez un peu poétiques.
Ah oui, oh, c'est beau. C'est okay. Beau. Ah ouais.
Tu sais que tu me manques déjà, Virginie. Je te veux autour de la table. Bon, on est d'accord. On est sur l'épisode de la réunification. On y va. C'est parti.
Oh my God.
Le débat du jour, à la fin, sera consacré aux séries françaises. Et ce sera juste après les chroniques audience et carte blanche en milieu d'émission. Mais on commence tout de suite avec les traditionnels coups de cœur du mois.
Oh my God, les coups de cœur du mois.
Comme d'habitude, vous pouvez choisir parmi les sorties récentes ou la nouvelle saison d'une série plus ancienne. Ce mois-ci, je crois que vous allez nous faire un joli petit tour d'horizon des différentes plateformes. Ça tombe bien, le hasard fait bien les choses. Et on commence avec Netflix et Selim.
Si, je commence à
Là, encore une fois, je pense à ceux qui ont l'image. Ouais. Ça les aidera à se projeter, clairement.
Ça peut aider. Narcos Mexico saison 2, donc Narcos saison 5, clairement. Pour tous ceux qui ont regardé Dragon Ball Z ou n'importe quel Avengers, la structure narrative, c'est toujours la même. Il y a un méchant narcotrafiquant qui affronte des gentils américains de la DEA, l'agence antidrogue. Et une fois que le baron de la drogue, il est derrière les barreaux, on s'intéresse à un nouveau boss, encore plus dur, encore plus sanglant, encore mieux organisé que celui qui dirigeait le cartel précédent. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans Narcos Mexico. Dans Narcos tout court, on a suivi le parcours de Pablo Escobar, puis du cartel de Cali. Et progressivement, on est remonté de la production à la logistique. Ceux qui tiennent les routes de la poudre blanche, les Mexicains. On suit donc dans cette saison l'ascension vers le pouvoir de Miguel Angel Félix Gallardo. J'ai fait allemand. Laissez-moi tranquille.
Ça se sent.
Ça, c'était la saison 1. Et c'est un ancien flic de la région du Sinaloa, corrompu, qui passe du trafic de sin semilla, le cannabis sans graines, plus dosé, au trafic de cocaïne, plus lucratif. L'ascension vers le pouvoir de Félix ne se fait pas sans casser des œufs, sans trahir ses amis, sans abandonner sa famille. Et ce qui va le faire tomber à la fin, le fil conducteur de toute cette saison 2, c'est le meurtre d'un agent de la DEA. Tuer un agent américain, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a empoisonné les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Mexique, à la fin des années 80. Alors, ce que j'ai aimé dans cette saison 2 de Narcos, vraiment, le coup de cœur, c'est la chronologie. On parle encore de Pablo Escobar, on parle encore des Gentlemen de Cali, et on prépare le futur avec El Chapo. Cette saison, elle est moins sanglante que les autres, mais elle est beaucoup plus psychologique. Comment accéder au pouvoir? Comment créer des alliances avec des hommes politiques corrompus qui sont déjà très liés à vos concurrents? Comment convaincre les uns et les autres de rallier votre cause et de former une fédération de la cocaïne plutôt que de rester chacun dans son coin? Mais surtout, cette saison, elle est d'une rare beauté. Les paysages, les plans, les décors d'intérieur. Il y a certains critiques qui n'ont pas hésité à parler vraiment d'une mise en scène digne du Parrain de Coppola. Donc, niveau esthétique, je vous la recommande évidemment.
C'est assez différent de la saison précédente, en tout cas. Oui. Vous n'avez pas été scotché, moi, par...
Non. Il y a une vraie évolution qui a été saluée vraiment par tout le monde. Mon personnage préféré, ça reste Pacho Herrera, un des quatre gentlemen du cartel de Cali. Tellement stylé, ses moustaches et cette petite... les chemises et la petite moustache.
On sait en qui tu t'es déguisé maintenant, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Bon, le personnage clé, Félix Gallardo, il reste une énigme, il reste froid en permanence, c'est le Parrain, mais que ce soit pour commanditer un meurtre, quitter sa famille, apprendre une mauvaise nouvelle, il ne bouge pas. C'est pas Pablo Escobar qui avait le sang chaud, lui c'est vraiment un monstre de froideur, on sait jamais ce qu'il pense et c'est ça qui le rend redoutable et fascinant. Narcos Mexico saison 2, c'est disponible sur Netflix.
Écoute, ça s'est vendu en tout cas.
Ouais.
J'avais jamais imaginé aller regarder cette série. Là, j'ai l'impression que de toute façon, j'ai plus le choix. Il faut que j'aille. Ok. Il y a une saison 3 qui va arriver
Elle arrivera. Ce sera dans la saison 6. Et ce sera Narcos Mexico saison 3. Ouais.
Moi, j'ai vachement de mal avec Narcos. Hein. Je vais pas vous mentir. Moi, le côté glorification de mecs qui sont juste des trafiquants de drogue, des tueurs, des monstres, ça me gêne vraiment. Et du coup, Narcos, j'ai même pas pu regarder à cause de ça. Parce que voilà, on parle la dernière fois du problème du fictionnage des faits divers dans les documentaires Netflix, et ben là je trouve que c'est encore pire parce qu'on est en train de faire de héros des mecs qui sont juste des hors la loi, et moi ça me gêne.
Mais est-ce que ça te gêne dans les films de Scorsese par exemple?
On peut parler de Scarface ou pas, qui existe depuis les années 30 et qui a toujours les méchants ont toujours été des héros comme Al Capone.
Ça n'empêche que ça me dérange quand même.
Le cinéma de Scorsese, il fonctionne sur ça, et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce truc un peu gênant où on se dit, je sais pas si vous avez vu le film Le Traître, le film italien qui était sorti l'an dernier, où effectivement on nous montrait enfin la mafia, c'était pas des super-héros, c'était des pauvres types qui étaient un peu des losers, etc., et qui étaient un peu peut-être plus réalistes, mais c'est vrai qu'il y a quand même tendance toujours à une glorification, mais ça fonctionne aussi parce qu'il y a ce truc de héros, d'anti-héros.
Ça marche très bien, mais à la fin, il tombe toujours, faut pas oublier. Il tombe toujours à la fin.
Une chose, c'est que la mythologie de gangsters qui ne parle pas, les prisons sont pleines parce que les gangsters balancent. Donc on ne sort pas, passer l'heure et demie sur l'écran, ou les 3 heures, ou les 10 épisodes, où on se dit, oh putain, c'est bien le code d'honneur et tout, en vrai de vrai, il y a zéro code d'honneur, sinon les prisons seraient vides.
C'est ce qu'on voit dans Le Traître, justement, c'est ça, c'est le type d'énonce.
On regardera Le Traître, du coup.
Oui, elle est au cinéma. Hein. Voilà. C'est bien pour l'émission de série.
Mais l'an dernier, voilà.
Je suis quand même d'accord, à la différence de Scorsese, je suis assez d'accord avec Emilie, je trouve que le format sériel fait qu'on érige en héros des gens qui ne sont pas forcément... le cinéma fait un peu moins ça, même si c'est un peu le premier plan du film... Il y a quand même
ça
ce côté...
Ça me gêne moins.
Mais c'est quoi? C'est parce que c'est la drogue? Parce que, par exemple, est-ce que vous aimiez Dexter? Dexter, c'était un tueur. Est-ce que ça vous gêne?
Il a jamais existé, Dexter.
Non.
C'est différent.
Oui.
Toi, ce qui te gêne vraiment, c'est le fait qu'on glorifie quelque chose.
Ça me gêne encore plus, en fait.
Ah oui, ok, d'accord. Je n'avais pas compris ça.
Virginie, on sent que tu as vraiment envie de parler. Et que cette petite règle stupide de « tu ne parles que quand je te donne la parole », ça ne marchera pas. Donc, tu sais quoi? Vas-y, fais-toi plaisir. Ton coup de cœur.
Non, mais moi, c'est comment enfiler des bonnes charentaises. Il y a la saison 3 de Baron Noir qui revient avec Cadmerade. Alors, dans les deux premières saisons, Cadmerade joue un Baron Noir, c'est-à-dire un homme de pouvoir, mais de l'ombre, qui connaît extrêmement bien comment obtenir le pouvoir, comment faire que le public soit pour vous, etc. Donc, il orchestre ça pour les autres. Et là, c'est la saison 3, c'est son tour de choper le pouvoir, mais gros déficit de charisme. C'est-à-dire que les gens n'ont pas du tout envie de voter pour lui. Donc, il va partir à la conquête de ses électeurs. Entre-temps, c'est plutôt bien agencé parce qu'ils ont écrit tout ça avant la crise des Gilets jaunes. Et pourtant, en fait, les Gilets jaunes sont dans cette histoire. Alors, ils ne s'appellent pas les Gilets jaunes, mais ils sont là. Donc, face à la présidente qui est jouée par Anna Moghladis, première femme présidente, il y a un espèce de mec qui sort de nulle part et qui d'un coup se présente à la présidentielle. L'extrême droite et l'extrême gauche vont se rallier à lui, pensant siphonner ses voix, et pas de bol, c'est lui qui siphonne les voix. Et donc là, bon, bah, je vais pas vous raconter toute la saison et toutes les intrigues, mais j'ai trouvé Cadmeyrade formidable. Et en fait, moi, je préfère Cadmeyrade dans ce registre que dans la comédie. Et en Baron Noir, alors bon, peut-être je suis désespérée aussi que ça c'est vous qui allez trancher, mais je trouve qu'il est même pas mal. Il commence à devenir sexy, moi je trouve, en Baron Noir. Et je ne pensais pas un jour de mon vivant dire ça de Cadmeyrade.
Ça c'est peut-être ton attrait pour les bad boys.
Oui, peut-être aussi. Mais en tout cas, j'ai trouvé la série formidable. Anna Moghladis, qui n'a pas un rôle facile du tout, est vraiment géniale. Même Alex Lutz, je sais qu'il a beaucoup de talent, je sais que tout le monde l'aime beaucoup, mais moi, il me dérange un peu à chaque fois que je vois apparaître à l'écran. Et même là, il est bien. Alors, écoutez, c'est un carton plein. Et pour le coup, si vous avez aimé la saison 1 et la saison 2, bah, la saison 3 est vraiment à la hauteur des deux précédentes, quoi. Moi, j'ai adoré. Je passe un très bon moment dans mon lit avec
on a bien compris.
Si Cadmeyrade nous écoute, il nous entend et qu'il a des soirées un peu seul, on va lui donner une numéro.
Et donc, Femme qui rit, c'est terminé. Hein. Femme qui rit, il n'y a plus. Et maintenant, il faut juste être un peu plus.
Bah, pas Virginie. Virginie qui rit, toi, amie pour la vie.
Alors, moi, j'avais préféré la saison 2 à la saison 1 de Baron Noir. J'espère que la saison 3 est encore meilleure. Parce que tu as l'air de dire que les trois saisons sont un peu au même niveau. Il me semble qu'il y avait quand même une montée en puissance sur la deuxième.
Ouais, non, mais là, ça va loin. Vraiment, elle est bien. Et puis surtout, je trouve que c'est un regard assez intéressant sur, en fait, le merdier dans lequel on est, hein, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Donc, il y a vraiment un regard et un point de vue narratif et d'auteur. Et là où c'est quand même extraordinaire, c'est qu'ils ont anticipé la crise que nous sommes en train de traverser, quoi. Ça, c'est dingue. Elle est déjà à l'écran. Donc, rien que pour ça, c'est intéressant d'aller voir.
En tout cas, tu nous verras à l'écran dès que ça sera diffusé. C'est très mignon quand tu parles, on regarde tous nos pieds.
Oui.
Et on est, tu vois, il y a ce petit côté à distance, ça ajoute un truc.
Mais on est bouche bée.
J'aimerais souligner que j'ai enfin l'écoute que je mérite.
C'est ça.
Je ne sais pas comment le prendre.
On passe à Fabrice. Alors, je précise juste que, donc, évidemment, tu as fait. En coup de cœur, ce qui devait être ta carte blanche, donc t'inverseras après. Mais donc là, on est du côté de MyCanal pour Baron Noir, et on reste sur MyCanal avec Fabrice.
Bah, on reste encore avec un bad boy ou en tout cas un anti-héros, puisque moi j'ai regardé la saison 7 de Ray Donovan. C'était déjà la saison 7. Pour resituer un peu, c'est une série qui avait été donc lancée en 2013, et Ray Donovan, c'est un peu ce type en costard qui est embauché par un gros cabinet d'avocats pour jouer les hommes à tout faire à Hollywood. Alors c'est quoi un homme à tout faire? C'est en gros, c'est lui qu'on envoie pour régler les sales affaires, étouffer dans l'œuf les scandales les plus salaces de la planète Hollywood à coups de menaces, de chantage et surtout, il faut dire, de bourre-pif. Sachant que dans sa vie privée, c'est pas bien plus propre, hein, puisqu'il est brutal, il est séducteur, il est compulsif, il a du mal à gérer sa propre famille. Et en particulier, on découvrait dans la première saison qu'il avait du mal à gérer surtout son père, Mickey, qui est Mikey, je voulais dire bien sûr, qui est joué par John Voight et qui est un Irlandais pur souche qui sort de prison après avoir purgé une peine de 20 ans à cause de son fils. Les saisons ont passé. Pourquoi je parle de la septième? Parce que la sixième m'avait énormément déçu. Ça se passait à Hollywood. Dans la sixième, ils avaient tout transposé à New York, ce qui veut dire filtre jaune contre filtre bleu-gris. Donc, je trouvais que le seul vrai changement, c'était ça. Et puis, du coup, ça se prenait un peu au sérieux. Ça voulait un peu trop copier. Je trouvais justement les films de mafia, etc. Et sur cette sixième saison, ils ont retrouvé un vrai rythme. D'abord, il se passe un truc démentiel dans le premier épisode. Donc, je vous le raconte pas, mais qui relance un peu la série et puis qui fait découvrir les personnages un peu autrement. Il y a à nouveau le côté complètement déjanté des personnages. Hein. Il faut dire que ça bute, ça saigne, ça torture même sans vergogne, ça torture même des personnes âgées. C'est pas ça que j'ai aimé particulièrement, bien sûr, on est bien d'accord. Mamie, si tu m'écoutes, de toute façon, mamie est morte, donc elle ne m'écoute pas. Mais sinon...
surtout... Petit esprit bienveillant, c'est parfait, en tout cas. Ne lâche rien.
Non, c'est une info de plus sur moi, c'est intéressant. Et surtout, cette saison va proposer en plus des flashbacks pour enfin comprendre ce qu'était l'univers des frères Donovan quand ils étaient ados. Et moi, les flashbacks, je suis toujours un peu contre dans les séries parce que je trouve ça, c'est un peu lourd. Et là, c'est assez bien amené. On comprend pas mal de trucs. Liv Schreiber, qui est l'acteur principal, est toujours excellent. John Voight, parfait aussi. Et le truc, c'est que Showtime, qui diffuse la série, a annoncé juste après la diffusion de cette 16e saison qu'il n'y aurait pas de suite. alors qu'il y avait normalement une huitième saison. Donc du coup, branle-bas de combat, bien sûr, de la part des fans, mais aussi du casting qui se plaint en disant bah, « nous, on veut
un vrai final ». On veut un travail, surtout.
Exactement, oui, ça a l'air. On veut encore travailler. Comprends. Et en plus, on a plein de trucs à dire, ça tombe bien. Et Liv Schreiber, lui, a assuré sur son compte Instagram qu'il y aurait bien une suite. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça sera. Est-ce que
oui,
c'est juste un téléfilm
entre,
final.
Il la fera entre eux sur Insta, vite fait.
Un truc vite fait, voilà.
Story,
c'est
tu
ça.
Vois.
Deux, trois meurtres, et puis on balance tout ça à la poubelle. Enfin, voilà. Si vous avez jamais regardé Ray Donovan, bah, c'est le moment de binge-watcher à mort, parce que pour le coup, ça vaut vraiment la peine. Si vous n'avez pas aimé la saison 6, bah, écoutez-moi et allez voir la saison 7. Et puis, si vous avez suivi tout le reste, bah, continuez, parce que c'est pas mal. Et moi, je trouve que c'est même là, ça a retrouvé le goût que ça avait au tout début.
Du coup, je me suis demandé avec ce petit débat de ils arrêtent, tout le monde se mobilise. La saison 7, elle se termine par un espèce de cliffhanger gigantesque.
Ouais, c'est pas un cliffhanger gigantesque, mais c'est très sombre la fin. Mais effectivement, chaque saison pourrait se terminer comme ça en réalité. Mais c'est vrai que quand même, il y a un petit goût de
pas fini. Voilà.
Pas fini.
Non, ça sent le mec qui veut pas laisser s'arrêter sa série préférée, c'est tout.
Ouais.
Ah non, mais il y a sûrement de ça. Mais quand t'as suivi les 7, forcément, sinon je me serais arrêté avant. Sinon, tu vois, là, j'ai envie de voir la suite. Voilà.
Je peux rien faire.
Émilie, si tu peux appeler quelqu'un pour moi.
Je vais appeler Showtime.
C'est noté. Ray Donovan, c'est dispo sur MyCanal.
Oui.
Et on passe à Prime Video avec Émilie.
Oui, on part sur Amazon. Moi, j'ai envie de parler d'une série qui a déjà 3 ans, qui s'appelle Mrs. Maisel. La fabuleuse histoire de Mrs. Maisel, ouais. De mémoire en français. L'histoire, c'est quoi ? C'est donc Mrs. Maisel, qui est une mère au foyer juive dans les années 50-60, qui est avec un mec qui fait du stand-up. Elle l'aide vachement, elle l'aide notamment à écrire ses trucs. Et puis, au bout d'un moment, ils se séparent. Donc, je spoil rien, ça, c'est le premier épisode. Ils se séparent et puis elle se dit, bon, bah, moi, je vais peut-être en faire du stand-up parce qu'en fait, je suis assez rigolote. Et effectivement, elle est très, très rigolote. C'est incarné par...
Elle est très bourrée, surtout, dans le premier épisode.
Voilà. Ouais, elle est très bourrée. Dès qu'elle est bourrée, en fait, elle se lâche totalement. Et voilà, elle tape des phases de stand-up qui sont, mais à mourir de rire, c'est extrêmement bien écrit. C'est incarné par Rachel Brosnahan, que je ne connaissais pas avant, qui est extraordinaire, qui a eu énormément de prix, notamment Golden Globes et Emmy Awards. En 2018, par exemple, ils ont quasiment tout raflé. C'était un truc de fou. Et quand Fleabag est arrivé, Fleabag a réussi à en choper d'autres, mais eux ont continué à avoir pas mal de prix. C'est drôle, c'est irrévérencieux, c'est osé, c'est parfait, j'adore. La saison 3, là, est dispo. Il y a déjà une saison 4 qui est commandée, qui a été commandée quasiment au début de... Enfin, dès que la saison 3 a été mise à dispo, ils se sont dit, bon, bah, en fait, on va déjà commander la 4 parce que c'est vraiment extraordinaire et je le conseille. Donc, c'est sur Amazon et je suis moins longue que mes petits camarades, mais j'espère que j'ai été aussi convaincante.
De ouf.
Dès ce soir.
Moi, je l'ai vu, mais j'ai presque envie de la revoir.
J'adore Madame Blaisdell. Non. je pensais à Claudia Blaisdell.
Toi qui as aimé Fleabag.
Non, mais oui, j'ai regardé déjà. Je trouve ça super aussi. Effectivement,
c'est extraordinaire. C'est tellement bien écrit. C'est pas attendu. C'est génial. Et Virginie aussi, tu vas aimer.
Tu l'as vu, Virginie?
Alors, je vais regarder. Non, je l'ai pas vu.
D'accord.
Je t'ai convaincue, je suis contente.
Célim non plus, je crois, ne l'a pas vu.
Non, pas encore.
D'accord. Bon, bah,
je vous prêterai mes codes, si vous voulez.
Mais Célim, il ne peut pas tout faire.
Ah oui, c'est vrai.
Exactement. Je dis deux mots sur ce qu'était mon coup de cœur, que je ne vais pas couvrir complètement. Glow Up sur Netflix. Je l'ai pris en coup de cœur parce que ce n'est pas exactement attendu à ce qu'une série sur le maquillage ou sur des... make-up artiste me passionne et moi j'ai un peu mis ça, je fais souvent sur Netflix, je mets un truc d'attente où ça, pour pouvoir faire deux choses à la fois, regarder mon téléphone.
Pourquoi tu regardes quand tu dis ça?
Parce que la dernière fois je me suis fait tacler par Virginie et toi sur le petit côté je ne peux pas faire deux choses à la fois face à certaines séries. Bon, sur Glow Up on peut, de la même façon que devant RuPaul ou Queer Eyes ou l'art du rangement.
Marie Kondo,
je me suis fait vraiment attraper par cette série qui est vraiment le format classique de, il y a des candidats, il y en a une dizaine au début, ils se font éliminer un par un sur leur talent de make-up artiste. Mais les personnages deviennent super attachants. Il y a un jury qui est assez rigolo. Val Garland, qui est la directrice maquillage de L'Oréal, est assez insupportable, mais c'est bien d'avoir un personnage insupportable dans ce type
de série. Il en faut toujours.
Donc moi, je me suis fait choper. Ça m'étonne qu'on en parle assez peu. En fait, je le vois pas dans les classements de consommation et j'en entends peu parler autour de moi. Sans doute Netflix l'a pas mis vraiment en avant. Et du coup, c'est étonnant parce que c'est un beau produit.
Mais on a ce truc surtout sur Netflix qui est un petit peu frustrant, à savoir on se dit bon bah je vais regarder un nouveau truc et tu zappes et en fait au final tu vas te remettre à regarder des Friends. Non mais c'est vrai, c'est hallucinant.
est-ce qu'on peut parler de l'angoisse quand même? Par exemple, moi, je ne sais pas si je suis seule, mais face à mes plateformes, bon déjà, angoisse, quelle plateforme? Oh, 10 minutes pour savoir sur quelle plateforme tu vas. Et puis ensuite, mais tellement de choix, tellement de trucs, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de choisir. Moralité, parfois, je me rebranche sur la télé, mais sur nous.
Voilà, heureusement, nous, on est là. Et du coup, on peut être un phare dans la nuit, guider les choix. Bah là, ouais, par exemple, Virginie, tu n'avais pas envisagé d'aller sur Netflix regarder Glow Up. Paf, qu'est-ce que tu vas faire dès ce soir? Netflix, Glow Up.
Je vais regarder ça et Fleabag.
Mrs Maisel.
Je ne dors pas.
Bah, bien sûr, tu ne dors pas. Allez, on passe à la suite.
Oh my God, les chroniques.
Dans les chroniques, on s'intéresse d'abord aux audiences qui sont toujours basées sur la consommation sur les plateformes de streaming des 1 300 000 membres de Beta Série. Et comme on est dans l'émission de la bienveillance, ce mois-ci, un top 15.
Oula.
Ah ouais,
c'est un nombre bienveillant.
Ah non, mais c'est de la bienveillance à tous les étages, quoi. En 15e position, Titan.
Bon bah c'est nul. Non mais c'est pas.
C'est vraiment de la daube. Alors Titan, c'est sur Netflix. C'est une série d'essais qui est sortie en septembre 2019. Donc clairement on n'est pas tellement la cible, mais de toute évidence ça cartonne parce que c'est sorti il y a plusieurs mois. C'est toujours dans les grosses consommations. La saison 3 arrive en automne. En 14e position, Baron Noir, dont on a parlé.
Virginie.
En 13e position, The Outsider d'OCS. On en a parlé en émission 3. On n'avait vu que 4 épisodes à l'époque. On en a vu un peu plus, 7. Juste parce qu'on ne va pas y passer beaucoup de temps. En gros, au bout de 7 épisodes...
Il y a eu un petit creux au milieu, mais je trouve que ça redémarre un peu. Mais il y a eu un moment donné où je me suis dit... Ah,
je suis d'accord, mais là, je trouve que la mi-saison est un peu en dessous.
7 épisodes, qu'il y a un creux, c'est embêtant quand même.
Oui, enfin, c'est sûr.
C'est embêtant, quoi, le milieu, là.
Le sixième, là...
Le temps de s'ennuyer, c'est pas terrible, quoi.
Non, je me suis pas ennuyé, je faisais deux choses en même temps.
On veut pas savoir quoi. On veut pas savoir quoi.
En 12e position, Intimidation, The Stranger.
Ah, oui. J'ai pas eu le temps de regarder. Alors,
du coup, j'ai regardé hier, quand j'ai vu le classement, c'est sur Netflix. Mm-hmm. Et en plus, il y a Jennifer Saunders, notre amie de AbFab. Ouais. Donc, ça me donnait envie de la voir dans un rôle sérieux. C'est du Alan Coben qui a toujours, je trouve, des faiblesses. Toujours un peu un cran en dessous de Stephen King.
Mais il est très
Stephen King.
Que là on dirait du Alan Coben tourné dans les décors de Plus belle la vie quand même. Il y a un truc très carton-pâte sur les décors, les trucs autour d'eux, tout
ça m'a pas interpellé, ça. Mais le
bar justement de Jennifer Saunders, je trouve qu'on dirait le Mistral.
Je comprends. Virginie, n'importe quoi.
Oui, c'est l'info qui sert à rien. Il est très très sympa.
Mais tu l'as donc rencontré?
Oui, on l'a fait.
Je propose qu'on fasse une chronique dédiée. Non, tu le connais, on peut dire.
Il est venu en interview, il est venu en invité dans notre émission sur C8 et il est hyper sympa, le mec.
On prend les gens au téléphone, donc on peut l'appeler peut-être. Il peut se joindre à nous.
On va appeler.
Donc là, on est en train de composer son numéro. Peut-être que tu es remplacée,
parce que
Virginie.
On peut faire des duplex. Ben, je comprends.
Alors, Virginie, c'est exceptionnel. La prochaine fois, tu viens quand même. Hein.
Ouais.
Nous fais pas. Bah, évidemment.
On va pas faire ça à chaque fois.
Non, évidemment.
Moi, je suis déjà épuisé.
On va pas faire des duplex à chaque fois. Moi aussi.
En 11e position, La Casa des Papel, Netflix.
Ah,
ouais. Bon.
La suite arrive bientôt. Moi, j'ai super.
Ça me chauffe vraiment, ouais.
Plus du tout.
J'ai arrêté au 3e épisode tellement c'était pas crédible pour un sou. Ça m'a saoulé. J'ai plus jamais regardé.
Mais qui parle de crédibilité? Vas-y.
Quoi?
C'est là que tu dois dire. Ah. Mais depuis quand une série doit être crédible?
Tout ça. Alors, je suis désolée, mais je trouve que tu m'imites
très mal.
Déjà. Voilà. Et non, moi, franchement, pour le coup, c'est pas non plus aussi. En fait, le truc, c'est que la saison 1, on a vraiment été surpris. Ouais. On l'est un peu moins, mais moi, je continue à bien aimer, mis à part l'autre, là, celle qui est censée être la star, à qui j'ai envie de mettre des gifles.
On a envie de la taper.
La nana, à chaque fois qu'elle arrive, il se passe... En fait, tous les problèmes viennent d'elle. Donc, virez-la à un moment donné, et puis laissez-la refaire leur braquage tranquillement
on va vite se verger.
Alors que nous, ce qu'on aime, c'est Raquel Murillo.
Ah ouais.
On adore Raquel.
On l'adore. Ouais.
En 10e position, The Witcher. On en a parlé en émission 2, donc...
Et je tiens à noter que Eric voue une passion pour The Witcher compte tenu de sa coupe de cheveux.
C'est vrai, je compte un jour lui ressembler vraiment.
Plus t'es The Witcher.
Chaque jour un peu plus. En 9e position, Narcos Mexico.
Ouais, c'est pas étonnant, c'est des bad guys, ça marche bien.
Tu sais que tu as déjà fait ton coup de cœur, en fait, on sait déjà ce que
j'ai cru qu'il allait nous la refaire, mais en intégralité.
Ok. En huitième position, je ne sais pas le prononcer, je vous le dis tout de suite. Ragnarok, je ne sais pas. Sur Netflix,
Ragnarok.
Du fantastique, dano, je ne sais pas quoi, norvégien.
Ouais.
Quelqu'un a vu ?
Pas du tout.
Non. Non. Bon. Quelqu'un a envie de voir ?
Là, comme ça ?
Ouais.
Non.
Bah, non. Ok, bon bah sachez qu'il y a
quand
un
même
public,
ça doit marcher.
Ah bah il y a un gros public danois qui se cache dans, parmi les membres de Beta Série. D'ailleurs on va se réinterroger hein, sur qui sont ces 1 300 000 parce que beaucoup de Danois, beaucoup de Norvégiens de toute évidence. Septième position, You, émission 2, on se refait pas le mais pourquoi
tout ça. Mais si, on aime bien.
Sixième position, Young Sheldon, c'est sur Canal+.
Ouais.
C'est un préquel de The Big Bang Theory. Bon, je crois qu'il faut avoir aimé Big Bang Theory, ce qui n'est pas forcément mon cas.
Moi non plus, en fait, j'ai jamais compris. En fait, je peux le mettre en fond, effectivement, faire des trucs à côté, genre des puzzles. Mais sinon, je vois vraiment pas l'intérêt. Il y a déjà eu Friends, pourquoi nous faire ça,
de faire des puzzles.
De faire des puzzles,
ouais. Ah non, c'est la vie, les puzzles.
Elle fait des puzzles Friends, par
un puzzle de Friends, c'est ça, évidemment.
Non, je n'en trouve pas, d'ailleurs, si vous voulez m'en offrir un.
D'accord, on va réfléchir.
On note.
Un joli, hein, sinon je me fais engueuler par ma meuf, après.
D'accord. En cinquième position, Legacies, Sci-Fi, France, pas vu.
Moi non
plus. Pas pris.
Non plus.
Pas vu, pas pris. Mais,
mais c'est bien que sci-fi position, soit que ça... aussi.
Bah ouais. Ouais.
Moi, donc, ça change. Chouette.
C'est pour ça que j'étais content de les voir apparaître.
En plus, on aime bien les gens qui travaillent chez sci-fi.
Absolument. Star Trek Picard, et non pas la version Picard de Star Trek. J'ai compris le truc en écoutant l'émission, pour le savoir. Quand tout le monde était...
Mais pourquoi tu nous parles de Koé?
Non, mais quand tu étais en train de dire ça la dernière fois, je me disais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a.
Moi aussi, j'avais pas compris.
Picard de Star Trek. Donc, Star Trek Picard, Prime Video, quatrième position, plutôt des mauvaises critiques que je vois passer sur Twitter, en tout cas. Les gens s'ennuient, mais ils regardent. Donc, je ne sais pas. Troisième position, les nouvelles aventures de Sabrina qui sont toujours là, Netflix comme la dernière fois. En deuxième position, donc une place de moins, Sex Education. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est l'émission 3 dans son intégralité, si vous voulez connaître
j'étais
notre avis.
J'étais seule contre tous, parce qu'il y a ici, autour de ces micros, les seules personnes qui n'ont pas aimé.
C'est vrai. On doit être les 4 personnes en France qui n'ont pas aimé.
Malheureusement, vous êtes mes amis.
Ben ouais,
on l'exprime publiquement, c'est pas la même chose.
Non.
On ose.
Première position, c'est Netflix. Et c'est, vous diriez quoi, première position?
Ah oui, c'est le truc, la clé, là, The Key je sais pas quoi. Là.
Lock and Key.
Lock and Key, le truc du fils de Spielberg, de Stephen King.
Stephen King
Exactement. Alors, moi, je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis, mais j'ai vu passer des critiques sympathiques. Pas dithyrambiques, mais sympathiques.
Apparemment, parce que je l'ai pas vu non plus, je vais essayer de me le faire ce week-end, parce que je suis seule, abandonnée. Ça fait très.
Je propose qu'on passe un petit moment là-dessus également. Non, on attend là, ou pas, pour parler de ton week-end.
Non, mais apparemment, c'est très Stranger Things. Voilà.
Oh, bah d'accord. Et moi, ça libère mon week-end immédiatement. Du coup, on est tranquille.
Tu te fous de ma gueule, là, un petit peu.
Ah, mais moi, j'aime pas Stranger Things. Oui,
mais
j'aime
t'es obligé d'être désagréable comme ça.
Non, je suis dans la bienveillance.
Ah, bon, ça se voit.
On passe à la suite.
Miou.
Oh my God.
Coup de gueule, plaisir coupable, étonnement, tout genre, c'est la carte blanche qui, comme son nom l'indique, vous permet de parler de ce que vous voulez en 1 minute chrono, 1 minute, 1 minute 30, mais quand même, on vise la minute chrono. Et on va commencer avec Émilie.
Alors, visiblement, je ne vais faire que des coups de gueule dans la carte blanche.
Ah, t'es en coup de gueule encore?
Là, je suis en coup de gueule encore. Je suis chonchon, je suis pas contente. Je vous explique ce qui se passe. Amazon est le diffuseur en France de... The Bold Type. The Bold Type, c'est quoi? C'est une série sur 3 jeunes filles qui travaillent dans l'univers des magazines de mode, de la mode en général. Sur le papier, ça a l'air d'être un peu du Gossip Girl, un peu gnangnan, un peu qui n'a absolument aucun intérêt. Et en fait, il s'avère que c'est un truc très moderne, assez sympa, plutôt féministe, où t'as 3 petites jeunes qui arrivent effectivement dans le monde du travail et qui évoluent ensemble. On va parler de sexe, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de comment ça se passe quand t'as 20 et quelques balais et que t'habites à New York et que tu vis dans un tout petit appartement et que t'es censé travailler pour un très grand groupe et tout ça. C'est très très sympa. Donc ils ont diffusé la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Et donc le 23 janvier aux États-Unis est lancée la saison 4. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur mon petit Amazon, je me dis pou tout, je vais me faire un petit épisode et là, rien du tout. Donc je cherche, ouais. Je comprends pas. Et en fait, il s'avère que Amazon a perdu les droits, sans prévenir. Enfin, ils ont pas prévenu ni rien.
Les pauvres, ils sont pas contents, j'imagine, surtout, c'est pas de leur faute.
Ils n'ont plus les droits. Et moi, je me retrouve Émilie Lopez, et désolée, mais je parlais que de mon cas personnel, à payer. Donc je paye Amazon, je paye Netflix, je paye OCS, je paye Canal, je paye Apple Plus.
C'est TV, sur Hulu.
Et c'est nulle part.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en France, si tu veux voir la suite de The Bold Type, il faut que tu le fasses illégalement. Donc quand tu
c'est
te retrouves,
c'est comme Dynasty, c'est le même problème.
Ouais.
Pardon.
Mais oui, mais il a raison.
Je vois pas pourquoi tu ris.
Non, mais
c'est pas drôle.
Et en fait, ça m'a super énervée parce que je me dis, en fait, tu fais comment si tu veux rester dans les clous, si tu veux rester dans la légalité et que tu veux quand même continuer à voir tes séries, et ben tu peux pas. Donc voilà, ça m'énerve. Amazon, tu m'énerves.
En tout cas, on a appris un truc, c'est que quand tu t'installes devant ta télé, tu fais poutou poutou.
Alors, mais j'aime bien, je me mets avec mon
poutou. Ouais, je vois ça.
Poutou, allez, poutou. Hop, c'est l'heure de ma série.
J'avoue que le truc qui est un peu lié et qui m'énerve, c'est que quand on suit les comptes Twitter ou les fils Instagram des différentes chaînes, maintenant, on voit de plus en plus passer. Amazon le fait beaucoup. Le you, on a gardé les droits de je sais pas quoi, ou on vient de gagner les droits de telle saison, de telle série, mais la saison précédente est sur. Enfin, ça devient très compliqué. Mais et je pense que là, il va falloir s'accrocher pour réussir à, même quand on est abonné à la bonne plateforme pour accéder à une série, réussir à tomber dessus, c'est de l'ordre du miracle.
Mais c'est ça, plutôt que de claquer des 1000 et des 100 pour faire des trucs avec Nabila au fin fond du trou du cul du monde, Amazon, gardez les droits de The Bold Type, c'est une très bonne série. Et tu devrais regarder Virginie, ça te plairait étonnamment.
Ah, on a perdu Virginie sur le coup de gueule.
Elle s'est endormie sur ton...
Sur mon coup de gueule.
The Bold Type.
Effectivement, elle a raccroché.
D'accord.
Je pense que la régie va essayer de la rappeler quand même parce qu'elle avait, une carte blanche importante à faire. Du coup, Fabrice.
Ah oui.
Ah oui.
Moi, j'ai une vraie carte blanche puisque j'ai appris une bonne nouvelle.
Elle était fausse.
J'avoue, c'est ça. Et c'est pas ça. C'est que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour moi et pour tous ceux qui, comme moi, auraient adoré pouvoir dire un jour au téléphone, Connie, ne me passez plus personne, ça, on appuie sur le bouton, comme Jack Abbott. Les feux de l'amour sont
c'est
renouvelés.
Pas dans Dallas,
non. Il y avait aussi dans Dallas. Il y avait Connie aussi. Il y a plusieurs Connie.
Je vois le téléphone même avec le bouton.
Exact. C'est peut-être la même.
Et peut-être que c'est la même Connie.
Je pense que Connie a fait le tour de tous les soaps.
Je tiens à dire que quand je travaillais avec Fabrice, c'était son grand truc.
C'est-à-dire qu'en fait,
on avait une collègue qui s'appelait Constance et de temps en temps, il l'appelait, il faisait Connie, il ne passait personne et il le faisait, mais plusieurs fois par jour. Voilà, c'était son grand kiff, alors que c'était notre chef. Hein.
Voilà. Et cette anecdote étant escalée. Tout ça pour vous dire que les Feux de l'amour sont signés pour 4 ans supplémentaires.
C'est incroyable.
Oh, wow.
Mais c'est dingue. Attendez. Je crois que vous ne réalisez pas. Ça veut dire que c'est signé jusqu'en 2024 et que donc en 2023, le feuilleton va fêter ses 50 ans.
Mais non !
Mais c'est exceptionnel.
Est-ce que c'est la plus longue série du monde ?
Alors, je crois pas que ça soit la plus longue parce qu'il y en avait une qui avait commencé dans les années 60. Mais peut-être qu'elle avait peut-être arrêté. Je sais pas si c'est la plus longue. En tout cas, elle est en quotidien. Elle est numéro 1.
C'est Des Jours et des Vies la plus longue.
Ah oui, c'est Des Jours et des Vies la plus longue. Et d'ailleurs, elle a été renouvelée aussi pour jusqu'à 2021. Et alors, ce qui est dingue, c'est que cette semaine, coïncidence exceptionnelle, Eric Braeden qui joue Victor Newman, l'homme à la moustache.
Avec qui j'ai dansé.
J'allais te dire moi aussi, mais non, mais j'ai dansé avec Nicky.
On l'appelle aussi ou pas, Victor?
Non, il transpire en plus, c'est dégueulasse.
Il a dit, je crois qu'il lui a dit, on n'a même pas ces personnes. Et donc Eric Braeden vient de fêter, lui, ses 40 ans dans la série, puisqu'il n'était pas là au tout début. Donc il y aura 50 ans dans 4 ans. C'est quand même exceptionnel, parce que tous les sops sont en train de se casser la gueule, et celui-là se maintient, il est toujours numéro 1 aux États-Unis, et même cette année, il s'est offert un petit luxe, c'était d'avoir ses audios qui remontait légèrement, donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, je me suis plongé dans ce truc-là et je me suis dit, mais ça va être super parce que du coup, ils vont sûrement fêter ce truc-là. Ça va être dingue, non?
Ils vont tuer tout le monde.
Voilà. Oui, bon, non. Et non, parce qu'ils reviennent après, ils changent de tête.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc, je rappelle quand même. Son corps n'a jamais été découvert. Et donc, quand même, je vous rappelle quand même, les Feux de l'amour, ils ont découvert David Hasselhoff, Tom Selleck.
Eva Longoria aussi.
Eva Longoria.
Chez Marmour.
Chez Marmour, je vois que madame a travaillé avec moi.
Eva Longoria, j'ignorais.
Eva Longoria jouait le rôle d'Isabella Brania. Elle était très méchante. Elle voulait tuer Cricket.
Bien sûr.
Comme dans Le cœur à ses raisons.
Même nous, on veut tuer Cricket.
Oui, mais Cricket est partie, t'inquiète pas.
Ah, elle est partie. La dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 15 ans.
Jiminy Cricket. fait.
Je voulais juste signaler que Les Feux de l'amour est le feuilleton qu'il est, mais il remplit son cahier des charges. C'est un vrai bon
son. Ça marche bien sur TF1.
Ça marche pas trop mal. Ils ont, depuis qu'ils ont changé d'audience, bien sûr. Non, ça se casse pas de la gueule le matin. Ils continuent à s'en maintenir.
Ça passait à 11h. Avant, c'était 14h. Ça a été le drame quand c'est passé à 11h.
Boosté par les rediffusions de Demain nous appartient, je crois.
Ah, bah, je comprends. Et du coup, voilà. Ah, oui, on est sur du qualitatif.
Ah, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Je vous garde un peu de Demain nous appartient.
Virginie, j'ai une rumeur qui me dit que tu serais revenue. Ah non.
Je suis là.
Mais bravo. Et ben écoute, tu vas nous faire une petite carte blanche, non?
Alors moi, je vais vous parler de Visible, Out of Television, c'est sur Apple, ça vient de sortir. C'est une série de documentaires et en fait, ça raconte l'histoire de la représentation gay dans l'histoire de la télévision. Donc d'où on part, c'est-à-dire le néant, et où on arrive à une représentation qui peut encore s'améliorer, mais qui a le mérite de commencer à exister. Surtout, ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, bon, déjà, message à la communauté gay a une histoire qui est extraordinaire et qui est nourrie de personnages qui sont courageux, éloquents, poétiques pour la plupart et vraiment qui poussent les murs. C'est le mérite qu'a cette série, c'est qu'elle est évidemment extrêmement émouvante, mais c'est surtout de mesurer à quel point à chaque fois que la télé sort un peu de son petit côté caucasien, blanc, blond et jeune, putain, le monde se sent mieux, quoi. C'est-à-dire que ça pousse les murs pour tout le monde. Et là où, bon, moi, évidemment, je regarde le monde du côté de ma barrière, c'est-à-dire je suis une femme, donc la lutte des femmes et la lutte de la communauté LGBT+, elle s'est toujours faite main dans la main. Et vraiment, à chaque fois qu'un personnage homo arrive enfin à un peu exister à la télé, d'abord à être présenté de façon hyper caricaturale, puis à être présenté avec un petit peu de personnalité, de choses... et de choses un peu plus nourries, pour finalement arriver à avoir complètement leur propre série, comme dans DL World, etc. Le monde entier s'en sort mieux, quoi. C'est-à-dire que le monde entier va mieux d'avoir des représentations larges et variées de ce qui existe.
Donc, en fait, c'est exclusivement sur les personnages gays dans des séries qui elles-mêmes sont plus ou moins LGBT. C'est pas du tout sur les coulisses et les acteurs. Non. Parce que j'avais donc pas du tout compris ce qu'était
Visible. Non, alors, en fait, démarche sur les coulisses et les acteurs, au sens où, évidemment, comment on a commencé à parler des personnages gays. Et on a commencé à parler des personnages gays avec des personnages qui, en fait, n'avaient jamais de famille, ou étaient toujours l'oncle qui était tout seul, le célibataire, etc. Et surtout, on voit effectivement tous les acteurs, tous ceux qui n'ont pas pu, qui n'ont pas osé faire leur coming out, et puis tous les premiers, les pionniers qui ont ouvertement joué des homosexuels, ce que ça leur a coûté. DeGeneres, on a oublié aujourd'hui, évidemment, elle tient la télévision américaine, mais putain, elle est passée à côté, mais à deux doigts de se faire jeter pour toujours, parce qu'elle a osé dire...
Elle a eu un creux dans sa carrière, d'ailleurs.
Non mais elle a eu un creux. En fait, ils ont tout fait pour l'acheter, parce que la meuf, elle est géniale et qu'elle est revenue par la fenêtre. Et personne ne lui a tendu la main, c'est elle, et vraiment sa volonté et son public. Heureusement, puis finalement, elle a eu gain de cause. Mais c'est vraiment une représentation, et ça parle de tous. C'est-à-dire que, évidemment, là, c'est sur la cause gay, mais ça parle aussi de la représentation, quelque part, de toutes les minorités. Et même chez les femmes, parce que, pardon, mais il nous a quand même fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour sortir de la cuisine et avoir autre chose à faire qu'un gâteau, quoi.
Mais ce qui est dingue dans la série, c'est qu'ils reviennent vraiment dans les années 50-60 et ils montrent, donc, c'est pas forcément des fictions, c'est aussi des documentaires. Il y avait eu un documentaire qui s'appelait Les Homosexuels, où on expliquait que l'homosexualité était une maladie. Et donc, on partait quand même de ça. C'est-à-dire que les fictions, du coup, n'avaient jamais créé de personnages homosexuels, sauf pour faire des personnages outrés dont ils se moquaient. Ça n'est venu que petit à petit. Et moi, ce qui m'a marqué, notamment dans le premier épisode, c'est quand il montre dans une série qui était très populaire aux États-Unis qui s'appelait All in Family, un personnage qu'ils ont commencé à introduire, un personnage trans dans les années 70. Alors, bien sûr, avec plein de trucs d'approximation, de maladresse, etc. Mais en tout cas, je trouve que les images de ce documentaire sont... Il y a des témoignages très touchants, mais il y a surtout des images de programmes qu'on ne connaît pas forcément en France et qui montrent quand même toute l'histoire de la télévision américaine et au-delà de la télévision américaine, de l'histoire des États-Unis, comment cette société a dû évoluer avec cet enregistrement de Nixon qui dit qu'il a vu des homos dans une série et que ça ne lui plaît pas, qu'il n'aime pas que les homosexuels soient mis en valeur dans une série. C'est ça qu'on entend quand même dans cette série. D'accord. Donc on part de très très loin. Et c'est très touchant. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Ouais.
Ok, ça donne envie de voir.
Et notons que le premier mariage lesbien qu'il y a eu dans l'histoire de la télévision, c'est dans Friends. Donc certains ont accusé la série d'être raciste, grossophobe, homophobe. Bah, ça n'empêche que quand ils le font, c'est pas autorisé à New York et ils le font quand même. Donc bravo Friends, encore une fois.
Ok, bah, on va aller voir ça effectivement. Merci Virginie pour l'idée. Selim ?
Modern Love sur Amazon Prime, coup de cœur parce que c'est très sympathique, c'est vraiment, on pose le cerveau, ce sont de belles histoires d'amour, parfois des histoires d'amour compliquées et on suit un peu tous ces personnages new-yorkais, on est quand même loin de Sex and the City, hein. On a des couples d'anciens, on a des couples qui galèrent avec leurs enfants, on a des premiers rendez-vous qui se passent très très mal, qui finissent aux urgences. On a le fait de comment ça marche quand on aime quelqu'un qui est malade, qui est bipolaire. C'est vraiment très touchant. Moi, je regarde avec mon cerveau de coach en séduction, toujours un peu, et ça marche très, très bien et ça fait du bien. Voilà, ça, c'est vraiment la série qui fait du bien en fin de journée.
Avec un cast de fou. Il y a quand même Anne Hathaway qui est dedans, il y a Dave Patel, il y a Ed Sheeran que genre... Passion Ed Sheeran, il y a Tina Fey que j'aime beaucoup.
Passion Dave Patel, plutôt, pour moi, mais...
Oui, enfin, pas pour la même raison.
Dave sonne pas si mal que ça.
Tina Fey aussi, qui est exceptionnelle dedans.
Un des épisodes, moi, qui m'a le plus touché, c'est celui où c'est le gardien de l'immeuble, tu sais, qui voit arriver à chaque fois les dates de la fille. Je révèle rien du tout, mais c'est super
c'est
bien écrit.
Mignon.
C'est très touchant, très mignon.
Ouais.
Mignon. Ok, bon.
Très inégal aussi, on va pas se mentir.
On va aller voir ça du côté
très
mignon
inégal.
De la force.
On va pas se mentir. Ah oui.
Je ne vais pas faire ma carte blanche qui était dédiée à The Circle, juste le temps de dire que je trouve ça honteux, qu'on puisse ériger en modèle le fait de...
Mais qui parle de modèle ?
Un autre personnage, bah, quand même, c'est le principe, c'est la mécanique du jeu, donc je peux tout à coup me transformer, si je suis black et en surpoids, en sublime mec à moustache, inspiré par Narcos. Je trouve ça discutable comme modèle montré à la jeunesse, mais je suis un vieux con, donc ça me base. Je suis pardonné. on va passer à la suite.
Oh my God, le débat.
Le débat, il y a eu les séries de l'enfance qui, en fonction de son âge, étaient Thierry Lafronde, Pause Café, Maggie, Hélène et les garçons... s'en passe. Puis on a grandi, et puis les séries anglo-saxonnes ont un peu pris le dessus. On s'est même un peu moqué des productions françaises type Joséphine Ange Gardien ou Navarro, même si elles cartonnaient en audience. Et depuis quelques années, sous l'impulsion de Canal+, puis Arte, OCS, France TV / et d'autres, la production française est redevenue exigeante et de plus en plus souvent distinguée par la critique. Mais où en êtes-vous ? Vous, mes amis, de vos relations aux séries françaises, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Oh my God!
Bon, alors pour entrer dans le sujet, ce que je propose, c'est un petit tour de table, un petit top 3 de si vous deviez retenir que 3 séries françaises. Ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est que quand je vous demande vos séries françaises préférées, au total, vous m'avez sorti une 60aine de séries quand même. Il faut le savoir. Donc on est toute la journée en train de parler des séries anglo-saxonnes, on le voit bien quand on fait le début de cette émission. Et au final, dans des séries qui nous ont marquées françaises, bah, on a plein d'idées, il y en a partout. Alors elles relèvent de l'enfance ou un peu moins. Ça m'intéresserait de voir ce qui vous vient à l'esprit en premier. Virginie, est-ce que tu es là? Oui.
Je suis là. J'écoute même. Enfin, ça n'arrêtait pas de couper. Je vous entendais plus.
Ah, zut. Bon, série française, à quoi tu penses?
Moi, je peux même défendre Marseille, mais j'adore les séries françaises. Je suis hystérique des séries françaises. J'ai adoré, moi, Engrenage. J'invite tout le monde à regarder s'il y a encore des gens qui n'ont pas vu Engrenage. Marseille, j'ai beaucoup aimé, en dépit du fait que je dois être la seule française. Je maintiens mon choix. Maison Close, j'ai adoré Maison Close. Je trouve que la qualité des, enfin, on parle de Julie Lescaut quand même et de Commissaire Moulin, de Navarro. Je trouve que vraiment la production française a hyper bien évolué et on a des super acteurs. Audrey Fleurot a quand même démarré dans
un
village français,
qui est dans mon top 3.
Une série magnifique aussi. Celui qui joue tout le temps avec elle, Thierry.
Thierry,
on l'adore, lui. Non,
ouais,
moi je trouve qu'on a
ma mère l'adore,
des
en tout cas,
acteurs.
Je peux dire.
Ah ouais, moi j'adore aussi. Je trouve qu'on a des acteurs formidables. Et vraiment, on peut le dire, des scénaristes extraordinaires en France. Il se trouve que la France est un pays où les scénaristes et les auteurs sont assez mal valorisés. Mmh. Et il faudrait vraiment les aider plus parce que c'est la preuve que quand on veut, on peut. Et en plus, je trouve que les séries françaises ont la particularité, vous allez me dire, oui, c'est idiot, d'être française. C'est-à-dire qu'elles n'auraient, c'est pas des hybrides de séries américaines. On est enfin sorti de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve qu'on a trouvé un vrai fil narratif très français qui est hyper intéressant. Et moi, vraiment, quand une série française est bonne, je me mets devant avec beaucoup plus de plaisir que devant une série américaine.
Alors, tu nous avais aussi, quand on en a parlé avant, parlé de Kaamelott, je crois.
Ah oui.
Et à la place de Kaamelott, tu mets Marseille. Est-ce que je peux juste m'étonner deux secondes,
non,
publiquement, de remplacer Kaamelott par Marseille? Qu'est-ce qui se passe? T'es à Hollywood, vous prenez des trucs, vous fumez
Marseille, c'est pas Esprit de Provoque, parce que moi, j'ai vraiment, vraiment aimé cette série. Mais Kaamelott.
Mais on t'aime quand même.
Je suis restée, mais. Non, mais Kaamelott, vraiment, ça m'a scotché. C'est la première fois où je vois quelqu'un réinterpréter, vous voyez, la légende du roi Arthur. Bon, bah, a priori, on la connaît. Moi, j'ai une fascination pour les gens qui arrivent à réinterpréter, donner un nouveau sens à des histoires, a priori, dont on pense avoir fait le tour. Et pas du tout. Et Kaamelott, ça a été exactement ça. C'est-à-dire j'ai redécouvert la légende du roi Arthur. En plus, il va très loin. Même la noirceur du conte et tout, il y va et il arrive quand même à nous faire rire. Donc, moi, il m'a ouvert Kaamelott. Il a ouvert mes yeux sur toutes ces légendes à un autre endroit que ce que j'avais vu jusqu'à présent. Je trouve ça brillant.
Bravo Alexandre Astier.
On comprend.
Ouais, en plus, le mec fait tout. Hein. C'est-à-dire, il réalise, il joue, il écrit, il fait la musique, il produit, il monte.
J'ai très très hâte de voir le film.
Oui, il y a un film qui arrive, c'est ça, et c'est tourné déjà, je crois.
Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'il en parle et il s'est pas précipité. Il aurait très bien pu faire un truc un peu bâclé, un peu rapide et tout. Et en fait, il s'est dit non, je vais prendre mon temps. Voilà, ils attendront parce que de toute façon, s'ils m'aiment bien, ils attendront. Et en fait, il a eu raison parce que de toute façon, quand tu regardes, par exemple, sur Paris Première, t'as des après-midi entières de Kaamelott, ce qui est un bonheur. Mais du coup, c'est pas comme si c'était une série qui avait été enterrée totalement. Il a pris son temps et je suis sûre et certaine qu'il va nous
ça va dépoter.
Ouais, il va nous sortir un truc, on n'est pas prêt, je pense.
Pour un débutant en Kaamelott, ça vaut le coup de tout regarder puis voir le film, on pourra voir le film uniquement.
J'ai pas vu le film. Déjà.
Non, mais de toute façon, vous pouvez vraiment regarder. C'est ça qui est dingue, c'est que quand on regarde tout Kaamelott, on a vraiment vu la légende du roi Arthur pour de vrai, quoi. C'est-à-dire, il est pas du tout, il ne cède pas du tout à la facilité. Il y a une vraie fidélité aux légendes et à ce qu'elles racontent, alors que c'est sur un format court et sur un format comique.
Il change quand même un peu de ton sur les dernières saisons. Il change un peu de ton. On est dans des choses un peu plus graves qu'au tout début. Au début, il y a un côté très Monty Python et ensuite quand même
c'est beaucoup plus dark, mais ça reste drôle.
Ouais.
Ça reste drôle.
Et ça vieillit très
après,
bien.
C'est de l'humour noir je me refais alors avec mes fils qui sont petits, qui ont 8 et 11 ans, ils adorent Kaamelott. Et on kiffe se faire, effectivement. Ça, c'est les chaînes, en plus, quand ils t'en passent, genre 18 ans d'affilée. Donc, tu peux te faire une nuit Kaamelott, quoi.
Je dis ça pour répondre à Selim. Est-ce que ça vaut le coup de voir le film sans avoir vu la série? En fait, ça vaut le coup de voir la série parce qu'elle a bien vieilli. Et du coup, là, c'est du temps utilement investi.
Tu verras, en fait, quand tu mets le doigt dedans, tu te fais un épisode, mais après, tu vas enchaîner parce qu'ils sont courts, les épisodes. Et donc, oui, je sais, le doigt dedans, tout ça, c'est drôle.
Non, mais je pense. Alors, tu es seul. C'est vraiment
bienveillance.
Bienveillance, toujours. Bref, ouais, Kaamelott, on est tous d'accord.
Bref, moi, je le mets dans ma liste.
Et vraiment, chapeau bas au génie d'Astier, parce que c'est un génie. Je pense que personne ne mesure autour de cette table ce que ça représente, mais le mec écrit, réalise, joue, monte, produit, fait la musique, c'est un truc de barge.
Est-ce que c'est l'ami de quelqu'un autour de cette table? Ça, si on peut l'appeler ou pas, est-ce que quelqu'un a dansé avec lui?
Il n'a pas le temps d'avoir des amis. Quand tu fais tout ça, tu n'as pas le temps de vivre. Je crois qu'il a en plus 5 ou 6 ou 7 enfants. Enfin, c'est un truc de fou, c'est un surhomme, ce garçon.
Moi, il m'a un peu déçu le moment où il a fait un film avec Isabelle Adjani, qui est quand même ma passion absolue. Et le film n'était pas très bon. Donc, du coup, on ne peut pas complètement lui donner une carte blanche, c'est le gars qui a le dire.
Errare humanum est, c'est bien.
Jouer avec Adjani, tu y vas, quoi. C'est normal.
C'est vrai.
Peu importe le scénario, tu t'en fous, tu n'as même pas besoin de scénario. Tu dis d'accord, je signe où?
Ok, je te crois. Très bien. Donc, on partait d'un top 3 par personne. Émilie, ça serait quoi?
Moi, j'ai adoré Un village français dont on a parlé tout à l'heure avec Virginie.
Dans un top 3 de séries françaises, c'est...
Parce que c'est extrêmement bien écrit. Déjà, c'est
je ne l'ai pas vu, j'avoue.
C'est très, très bien.
Ouais, okay. C'est très bien de se focaliser sur l'histoire de France et d'éduquer un petit peu les jeunes qui sont biberonnés aux séries What the Fuck, donc qui regardent un peu ça.
Vous pensez que ça a laissé une trace
J'espère. En tout cas, j'espère. Mais c'était
très
bien fait.
Est-ce que les gens savent qu'il y a eu cette série? Est-ce qu'elle a marqué? Est-ce que ça a été un carton d'audience historique?
Ah ouais, ça a été
historique?
Un carton.
Oui,
ouais,
d'accord.
Ouais, ça faisait
très bien sur France 3. Hein. Mais c'est surtout, ils avaient justement trouvé le
coup. Sur les séries françaises, c'est eux qui cartonnent.
8 millions sur France 3, c'est...
Oui, 8 millions avec Capitaine Marlowe.
Oui, mais c'était bien avant Capitaine Marlowe.
Et surtout, ils avaient trouvé ce côté à la fois un peu série traditionnelle, c'est-à-dire justement très à la française, avec des scénarios assez linéaires, etc. Et en même temps, tu avais envie de regarder ça. Moi, ce que je trouvais, c'est que c'était intergénérationnel. Mes parents regardaient ça, mon frère et ma sœur regardaient ça, et mon chat aussi. Mais...
Phoebe.
C'est le retour.
Je mettrais aussi Hard. Alors, Hard, c'est une série Canal sur l'univers du porno, mais sans être vulgaire. C'est encore dispo, je pense.
Oui, c'est toujours dispo sur MyCanal.
Et voilà, j'ai adoré cette série. Je l'ai trouvée impertinente et je l'ai trouvée très drôle et très touchante aussi, souvent. Et je sais plus qui l'avait mis dans sa liste, mais 10%, bien évidemment, parce que Camille Cotin, et que Camille Cotin peut me lire le bottin.
Que j'adore pour Camille Cotin.
Camille Bottin.
Ok, bienveillance et jeu de mots aujourd'hui.
Voilà. Bon, après, j'en ai plein de petites que j'ai bien aimées. J'ai découvert récemment Scam sur France TV Slash. Pas Slam, c'est Cyril Ferro, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas de voir des tweets sur Scam. Je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais aller voir ce que ça donne. Et je me suis laissée emporter. C'est un groupe de jeunes au lycée qui ont des histoires d'amour, des histoires de sexe et tout, de trahison, de coming out, d'un peu tout. Et je l'ai trouvée assez touchante, assez intelligente, cette série. Qui est plus pour les ados, on va pas se mentir.
Énorme phénomène de société dans les cours d'école, Scam. Ouais. C'est gigantesque. On se rend pas compte, c'est absolument gigantesque.
C'est leur Hélène et les garçons, quoi.
Ouais, je pense que c'est de cet ordre-là. Voilà, mais on réalise pas parce que c'est sur un.
Mais c'est exactement pour ça que je voulais en parler parce que c'est sur Slash et c'est pas.
Je suis très embêté parce que ça cible assez clairement les ados, en effet, et je suis à fond.
Mais bien sûr.
À fond. C'est-à-dire, j'attends les saisons d'après, j'adore depuis.
Bah, je te dis, en l'espace de deux jours, je me suis fait quasiment tous les épisodes.
Mais avec tes cheveux, on avait compris que t'étais resté un grand ado, tu sais.
Si c'est pour dire ça, je te rappelle que je t'ai pas donné la parole.
Mute.
Ok, très bien. Donc, on est plutôt sur des séries récentes, pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Jusqu'à maintenant, on est sur le renouveau de séries françaises.
Renouveau, c'est 2010, tu vois. Je pense à peu près, création originale Canal, c'est vraiment 2010-2011 avec...
Les Revenants.
Déjà avant, même Engrenage, c'est 2005. Quand même. Engrenage, pour moi, c'est ça qui a lancé cette nouvelle patte. Ils n'avaient pas les mêmes enjeux que les autres chaînes non plus. C'était des abonnés, donc ils pouvaient se permettre des choses là où d'autres chaînes. Moi, une série, alors je le dis juste, mais il y a une série qui m'avait beaucoup marqué, qui était diffusée à l'époque sur M6, qui s'appelait Police District. C'était Hugues Pagan, Olivier Marchal, il y avait dedans Sophie Monico, Francis Renaud, tout ça. C'était le truc très noir à la Olivier Marchal, l'histoire de...
Que des noms que deux ans,
c'était très bien.
Il y avait Michel Champougnat également, je me souviens très très bien.
Et sa femme Josiane.
C'était
super bien, mais en audience, ça avait été extrêmement mauvais. Ils pouvaient pas se permettre de...
Trop tôt.
Ouais, c'était trop tôt.
Il y avait eu Les Bleus aussi, qui étaient très bien, et qui s'étaient plantés.
Mais qui n'avaient pas le même ton.
Je pense qu'M6 a eu un moment où les gens ils se sont dit bon bah non les séries en fait si tu me sors autre chose que Scène de ménage je vais pas y aller.
Mais ça peut être lié au diffuseur aussi, en effet. M6 n'est pas attendu sur ces formats-là et sur France 3 ça aurait peut-être marché.
C'est un public peut-être plus large et puis on n'était pas encore préparé effectivement parce que c'est ce qui a ouvert après la voie à des effectivement Grenage, à Braco, etc. Toutes ces séries-là.
Grenage, Braco, Maison Close, Pigalle, tu vois tout ça c'est à peu près c'est le même moment. Et après, ça a vraiment déroulé. Et moi, dans mon top, tu vois, je mets du coup Bref. Parce que ça arrive là, 2010-2011. Et ça crée une vraie bascule dans les programmes courts sur Canal. Au choix, si je dois choisir Bref ou Bloqué, c'est la même team. Mais là, je me dis, mon top 3 séries françaises que je dois montrer à des étrangers, je leur montre ce qu'on sait faire, je leur montre Bref. Je leur montre bien évidemment Le Bureau des Légendes avec la saison 2, qui est de loin devant tout. Et elle est tellement bien écrite.
Parce que
t'as
pas encore vu la dernière.
J'ai tout vu. Enfin, oui, j'ai pas encore vu la dernière en date. Elle arrive. Mais pour l'instant, ils ont pas égalé cette saison 2 en écriture. Et après, je leur montrerai probablement aussi on va dire H. Parce que ça va rester dans mes séries comiques. H, ils ont fait vraiment... très fort. C'était au début des années 2000. Et à mon sens, il n'y a pas une meilleure série comique aujourd'hui. Je peux me remettre un épisode n'importe quand. Je me marre encore devant.
Du coup, je suis la seule à avoir aimé les séries Netflix.
Moi, j'ai pas encore
Planqueur
parlé.
Et Family Business.
Mais c'est très mauvais, Planqueur. Non, Family Business, c'est bien. Family Business, c'est bien.
Mortel aussi.
À Mortel, j'ai pas vu encore.
Bah, c'est la seule qui est bien.
Bah, attends, alors bah déjà, non, parce qu'elle a adoré arrêtez, tout. Hein, Planqueur, c'est très bien.
Mais tout le monde
c'est très rigolo. Mais c'est un guilty pleasure, les gars.
C'est un vrai guilty pleasure.
Okay. Voilà. Et Family Business, je suis désolée,
avec
mais c'est très drôle.
Avec cet acteur de trauma qu'on adore.
Ouais. Plus surtout avec Sabrina Ouazani, que j'adore, personnellement.
C'est marrant, on n'est pas sur...
Ouais, on n'est pas sur la même... Je comprends pas. Moi non plus. Et Family Business, très drôle. Bientôt la saison 2 d'ailleurs. Ouais. Et j'ai bien. Non, franchement, le pitch de départ est vraiment très sympa.
Oui, ah bah, le pitch est super.
Et je l'ai trouvé bien foutu cette série. Puis Jonathan Cohen, il me fait mais mourir de rire, ce mec. C'est vraiment je. Et vous l'avez tous vu ou pas?
Oui, oui.
La fille du ministre. Ouais. Qui est jouée par
Elle est folle.
Complètement folle, mais la nana, c'est une phrase, un éclat de rire. Et je la trouve exceptionnelle, cette actrice que je n'avais jamais vue auparavant et que j'ai très envie de revoir, mais très vite, dans plein de trucs, parce que vraiment, je trouve qu'elle a un don comique qui est hallucinant.
D'accord. Donc, les séries Netflix. Séries OCS aussi sont pas mal. Ouais. Vous les avez vues? Les grands...
je voulais donner mes trois séries préférées.
Ah, pardon.
Allez. Vas-y.
Non, mais c'est pas ça. Je pensais que Family Business, c'est très bien, Family Business. Après, ça repose que sur les comédiens. Je trouve qu'ils cabotinent un peu. Gia Piaton, elle est démente, je trouve, elle est super bien. Darmon, il est excellent. Mais je trouve qu'au niveau scénario, on n'est pas sur du scénario. On est sur du jeu, du jeu, de la comédie, etc.
Ouais,
mais beaucoup moins sur le scénario. D'ailleurs, ce qui leur arrive finalement, c'est un prétexte à faire des gags et à faire des trucs. Moi, c'est un peu ce que je me suis dit. Mais au début, je me suis dit, mais je vais m'emmerder parce que ça va être que ça. Mais ils sont tellement bons que du coup, tu vas quand même jusqu'au bout alors que l'histoire en soi, bon.
Maintenant, je brûle de connaître ton top 3, s'il te plaît.
Non, et alors, non, mais c'est pas ça, c'est parce que je voulais revenir
déjà fait
sur
ton
années.
Top 3, donc la suite de ton top 3.
Non, je voulais parler de.
Je voulais parler de Clara Scheller.
Merci de laisser un message.
Exceptionnel.
Ouais, et non, je voulais juste parler de Clara Scheller, qui à l'époque était vraiment arrivée et disait on peut vous proposer d'autres personnages un peu différents en première partie de soirée sur France 2. J'aimais bien le côté culotté de cette série. Voilà, les acteurs étaient très bons. Il y avait Diefenthal, Mélanie Douté. C'était vraiment réussi. Carrément. Et surtout, c'était la première fois qu'on disait sur France 2, tiens, on va mettre un personnage bisexuel en avant, dans un ton comédie, c'est-à-dire pas de nous faire un truc dramatique. Je trouvais qu'il y avait une écriture et une légèreté qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir encore à la télé. Donc pour moi, ça m'avait marqué. C'est peut-être pas ma série préférée. Si je devais la montrer à des étrangers, c'est peut-être pas celle-là que je montrerais en premier. Mais je trouvais qu'il y avait un virage, il y avait un truc où France 2, finalement, sortait un peu du lot après que Canal eut donné son... sur un peu son fer de lance, quoi. Et ensuite, il y avait d'autres chaînes qui ont suivi avec des trucs un peu différents et un peu culottés. Ça, c'est pas mal. Et puis après, sinon, France 2, il y avait fait pas ça. Je trouvais qu'il y avait quand même un ton, là, pareil, c'est encore de la comédie, mais je trouvais qu'il y avait un truc inventif avec des acteurs qui sont très bons aussi et qui tenaient effectivement la plupart de la force de cette série, mais.
D'accord. Donc en référence, on revient sur les années plutôt 2000, mais personne va sur Orage d'été, Les Cœurs Brûlés, Château Ballon.
Les sagas, j'adorais.
Les sagas de l'été, tout ça. Non, alors Célim est en train de chercher un saga classique.
Non, c'est passé. Voilà, je pense qu'on a autre chose.
Pas référence. C'est passé. Émilie, elle a même pas vu.
Ah, mais bien sûr que si, mais tu plaisantes. Mais moi, les sagas de l'été, je ne vivais que pour ça. J'étais fan de Mireille d'Arc.
Mais ouais, les yeux d'Hélène.
Jusqu'à 12-13 ans. Et en vrai, j'ai envie de me refaire les yeux d'Hélène. Il faut juste que je le trouve sur les internets.
Il faut passer
Je suis pas sûre.
Tu peux le voir en streaming, les yeux d'Hélène.
Ce que je disais tout à l'heure, j'essaye d'être dans la légalité, mais bon, visiblement, je n'y arriverai jamais.
Mais il
dans
doit y avoir
pays merveilleux.
Bon, je suis sûre que c'est en VOD.
J'ai un peu peur que ça ait très très mal.
Il n'empêche que les Français, quand même, il y a un talent pour écrire des sagas. On peut dire ce qu'on veut, après on aime ou n'aime pas, mais ça a rempli le cahier des charges. Moi, quand je vois Dolmen, mais même Zodiac avant, etc., c'était super, c'était foutu comme une saga. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'on venait regarder, on pouvait pas être déçu.
Il y avait la petite touche Jean Sagol, ils étaient tous en roue libre en fait. Il y avait Annie Girard dedans, j'étais en roue libre absolue. Elle avait un message à faire passer autour, elle brodait à mort, c'était magique. Moi, j'ai adoré.
Et on parle pas non plus assez, je trouve, de Plus belle la vie, étonnamment.
Parce que Plus belle la vie. Vrai, on n'en parle pas assez.
Mais non, mais Plus belle la vie a ce truc qui est où ils parlent de tous les sujets de société. À chaque fois, ils rebondissent à chaque fois sur tout ça. À chaque fois, on est en train d'encenser des séries comme Skins ou quoi que ce soit pour les jeunes ou je sais pas, ou toi les Feux de l'amour. Fabrice.
J'ai rien dit.
Mais on peut au moins reconnaître ça à Plus belle la vie. C'est pas les meilleurs acteurs du monde, on va pas se mentir. C'est pas les intrigues les plus exceptionnelles ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, à chaque fois, ils sont dans l'actu.
Toi, tu es team demain nous appartient.
Et ah non non.
Ah bah je sais pas, un si grand soleil peut-être.
Mais je suis en train de te dire que j'aime bien Plus belle la vie en fait.
Tu dis que les acteurs ils sont mauvais, que les histoires
j'ai pas dit, non,
j'ai pas dit mauvais. J'ai dit ce n'est pas les meilleurs acteurs du monde et les intrigues sont les plus.
C'est vrai.
Voilà. Mais à chaque fois ils vont sur les trucs de société et chapeau parce que voilà parce que c'est intéressant souvent.
Je suis d'accord. Bon on voit à peu près sur à quel endroit on va trouver nos références. On arrive à la fin de l'émission donc je vais pas avoir le temps de m'étonner que Capitaine Marlowe soit ce succès d'audience à 8 millions face à toutes ces belles séries dont on est en train de parler et quand même Capitaine Marlowe, qui pense que c'est très mauvais ?
C'est très mauvais.
Donc Émilie est d'accord avec moi.
Moi, je pense que c'est très mauvais.
Moi,
je trouve
c'est étonnant, très Virginie. Mauvais.
Virginie, elle est d'accord avec vous. Mais, j'allais même pas te demander, Virginie, tout le monde savait, j'allais le dire à ta place.
C'est Fabrice. Très mauvais, mais ça tient sur une actrice. Non, c'est une actrice.
Mais on déteste.
Qui joue.
Je tombe sur elle, j'ai l'impression que c'est dimanche de en fin de novembre.
Elle parle à une partie du public, elle parle aux gens. Et cette espèce de gouaille très française, quand même. C'est quand même un personnage très français.
Mais tout à fait. Et pour rebondir sur ce que disait Émilie, c'est exactement ce que nous apprend Invisible, la série documentaire dont je parlais sur Apple. Et c'est pour ça que Plus belle la vie est important et que c'est important que des séries pareilles prennent les sujets de société parce que c'est par ces séries qu'on arrive à éduquer les gens.
Exactement.
C'est par ces séries qu'on arrive à ouvrir les consciences.
Allez, c'est tout pour cette fois, malheureusement. Oh je sais, c'est horrible. Donc vous avez aimé, vous nous le dites sur les réseaux sociaux, vous utilisez
surtout à Virginie.
Le hashtag bêta-série oh my god.
Oh, oui.
Virginie depuis Hollywood aura largement le temps de vous lire tous. Donc n'hésitez pas à lui dire ce que vous avez pensé de cette émission et on se retrouve très vite. Ciao.
Salut.
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 Oh my god. L'émission décomplexée sur les séries, présentée par Éric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.